Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC.
RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07 de retour dans les grandes gueules du sport. Nous sommes ensemble encore durant une heure jusqu'à midi avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Marc Madiot, Fred Weiss, Jean-Louis Gasset. Il n'est pas dans l'émission, hein, mais c'est notre débat. Jean-Louis Gasset, a-t-il un avenir à l'OM? C'est la seconde des GG dans quelques instants. 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir me répondre. Elles vont devoir débattre et s'affronter. J'espère que Marc et Pascal seront dans le même camp. Et puis 11h45, c'était mieux avant. Le bonbon nostalgique de Christophe Cessieux. Christophe, aujourd'hui, tu vas nous raconter l'histoire extraordinaire de la locomotive tchèque.
Émile Zatopek, a longtemps tout gagné sur les pistes, les 5000, les 10000, les marathons, qui a été l'adversaire numéro 1 d'Alain Mimoun, qui était aussi le symbole absolu de ce que voulaient les pays soviétiques du bloc de l'Est avant d'ouvrir sa gueule et de finir dans les mines d'uranium.
Oui, avant que ça dérape. Ce sera à partir de 11h45, 11h40 même. C'était mieux avant avec Christophe Cessieux. Et puis je vous redonne cette information. Sachez que samedi prochain, nous serons en direct de Lyon avant le crunch. Toutes les grandes gueules du sport se
délocalisent. On va cruncher dans les bouchons, oui.
Attention, hein. spécial rugby au niveau de la tablée. Hein. Ah. Il y aura toi, évidemment. Il y aura Philippe Saint-André. Il y aura Denis Charvet. Et il y aura Lénaïque Courson, notre consultante, qui viendra faire sa première dans les grandes gueules du sport. Alors si vous voulez participer à cette émission, vous envoyez par mail un petit message à public@rmc.fr. Vous laissez votre nom, prénom, adresse, code postal, numéro de sécurité sociale. Et évidemment, vous viendrez nous voir en direct de Lyon. Allez, tout de suite, François Mitterrand a dit un jour, il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir.
RMC, les grandes gueules du sport, passe la seconde.
C'est terminé. La victoire bressoise, le petit exploit une nouvelle fois des Brestois ici à Leblé face à une toute petite équipe marseillaise.
Des Marseillais qui auront été médiocres.
L'actualité est à Marseille, Vincent, avec un nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset présenté aujourd'hui.
Pourquoi Jean-Louis ? C'est pas facile de changer pendant une saison. Dans ce cas, on s'est fait toutes les questions de quel est le profil idéal pour chercher de changer complètement la dynamique.
Le point rageur des Marseillais et,
ben voilà.
Et la célébration du Vélodrome. Marseille est en 8e de finale de la Ligue Europa.
Il fallait quelqu'un qui connaît les championnats. Il fallait quelqu'un avec de l'expérience et de la maîtrise du championnat à niveau tactique. Il fallait un changement complet dans la mentalité.
C'est terminé avec la victoire de l'Olympique de Marseille face à Montpellier sur le score de 4-1.
Quelqu'un qui pouvait avoir les clés pour pouvoir réussir à transformer un groupe de personnes qui travaillent ensemble. C'est pour ça que sont toutes les conditions qu'on a identifiées avec Jean-Louis.
C'est terminé ici avec la clameur du stade Vélodrome malgré l'absence des supporters du Virage Nord. 4-0, la cure de confiance se poursuit.
Marseille, ma ville, je t'aime, je porte ton emblème, tes couleurs.
C'est ce qu'on appelle un choc psychologique réussi. Depuis son arrivée, Jean-Louis Gasset a réussi des miracles avec l'Olympique de Marseille. 4 matchs, 4 victoires, 16 buts marqués. Un petit calcul de tête rapide, ça fait 4 buts par rencontre. L'OM est donc quasiment qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Et l'OM n'est plus qu'à 6 points de la 4e place en Ligue 1 avant son match ce soir face à Nantes. Le pompier de service a réussi à éteindre le feu et à mettre tout le monde dans sa poche. Mais, la musique qui fout les jetons est cette question. Jean-Louis Gasset a-t-il un avenir à l'OM? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Oui.
Marc Madiot.
Hélas non.
Pascal Duprat.
Oh que oui.
Fred Weiss.
Oui.
Je suis très étonné d'avoir 3 oui autour de la table, sachez-le. Avant de vous entendre, prenons le principal intéressé. La question lui a été posée en conférence de presse. L'avenir, point d'interrogation, Jean-Louis Gasset. Réponse.
Il y a une phrase qui me plaît actuellement, c'est « profiter de l'instant ». J'ai signé 100 jours, on m'a dit « est-ce que tu te sens capable de ?» J'ai dit « ok, je viens, on fait la mission ».
On fait la mission pour 100 jours, et pas plus, visiblement, a-t-il un avenir. On vous attend, les Marseillais, supporters marseillais, au 32-16 pour participer à notre débat. Pourquoi oui, Fred Weiss?
C'est assez simple. Pour l'instant, il remplit l'objectif qu'on lui a donné. Donc, on verra. Il y a une expression à Limoges qui dit c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc, si à la fin de la foire, il est en demi-finale de Ligue Europa, s'il est qualifié directement pour être européen la saison prochaine, je vois pas pourquoi on changerait une équipe qui gagne. Alors oui, au départ, effectivement, les conditions sont justes. Tu es un pompier, tu stoppes le feu et tu fais ce qu'il y a à faire.
Et c'est pour ça qu'il a été choisi, d'ailleurs.
C'est pour ça qu'il a été choisi. Je suis d'accord. Sauf que si ça marche, pourquoi tu veux changer? Pourquoi si
il réussit son...
Ben oui, mais justement, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que l'année qui vient de s'écouler,
c'est dans la vie du coach?
Et ça veut dire quoi? S'il s'appelait Gassetto, il avait plus de chance, c'est ça? Non, je pense que ce mec-là est arrivé, il a aidé cette équipe à être où elle en est. Alors effectivement, hein, il est là que depuis 15 jours, on va pas non plus s'enflammer, il peut avoir des déconvenues et après ouais, on parlera d'autres choses.
Tu peux quand même saluer son boulot. Quand
oui,
même.
Oui, tu peux saluer son boulot, et mais tu peux quand même dire que bah, s'il continue sur cette lancée et qu'il remet en ordre cette machine qu'est l'OM, cette machinerie énorme qu'est l'OM, pourquoi tu veux aller chercher ailleurs quand tu l'as déjà tenté et que ça marche pas?
Ok, pourquoi non, Marc Madieu?
Bah, tout simplement parce que, alors déjà je vais commencer par dire, je suis pro-gassé. C'est un très bon entraîneur.
Ça
donne plus de poids à mes arguments qui vont venir derrière. Je suis pro-gassé, je pense que c'est un excellent entraîneur. Il fait un boulot merveilleux en tant que Red Adair du football aujourd'hui à l'OM. Les chiffres sont là pour parler pour lui. Le problème qu'il a, c'est un, il est âgé. Donc, il n'a peut-être pas forcément, lui, déjà envie de prolonger dans le temps à Marseille, parce que c'est quand même un club qui use la santé assez facilement et assez vite.
On rappelle ça, c'est un bon argument. Ouais.
Et ensuite, moi, j'imaginais Gasset continuer peut-être à l'OM, mais dans un rôle légèrement en retrait, en redevenant l'adjoint de Blanc, par exemple.
Oh non,
mais
non.
Bon, si là, autour de la table, on me dit que non, c'est pas réalisable. Moi, je pense que non, les temps de Gasset à l'OM, sous la forme actuelle, sont comptés. Je pense qu'il peut rester comme
Marc,
conseiller.
Marc, t'oublies le fondamental dans le sport, c'est le résultat.
Oui.
Et t'oublies aussi une chose, c'est le contexte marseillais. Donc,
exactement.
Tu oublies la ferveur populaire.
Oui.
Et tu oublies aussi que le président délégué de l'OM, c'est un grand consommateur d'entraîneurs. Qu'aujourd'hui, Gasset, c'est son assurance vie. Donc, si Gasset, il a des résultats, tu penses que Longoria, il va changer d'entraîneur en fin de saison?
Il prendra pas de risque,
crois-moi. Certainement pas.
J'espère que tu as raison.
Là, par contre, dans ce que tu as développé, là, il y a un argument qui est important.
Franchement, Gasset.
Est-ce que Gasset, il va, parce qu'il a son libre arbitre, est-ce qu'il va pas réfléchir au fait que s'il réussit, comme vous l'avez dit, et c'est possible, hein, même la troisième place est possible en championnat, si Gasset réussit dans cette mission, c'est-à-dire s'il réussit ce miracle, est-ce qu'il va avoir suffisamment de force pour s'arrêter? Parce que Marseille, ça doit être génial, hein, d'être entraîneur adulé de l'OM, ça doit être difficile de s'arrêter. Donc, par contre, voilà, Gasset, si demain il continue comme ça, crois-moi, à l'OM, tout le monde va vouloir le garder.
Tout le monde va vouloir le garder. Moi, je suis plutôt sur la ligne de Marc. Hein, j'entre dans ce débat. Je vois pas comment Pablo Longoria, qui adore évidemment faire des transferts, qui adore tout changer, qui adore trouver la bonne formule, peut se dire, parce que c'est un désaveu terrible, c'est quand même le quatrième entraîneur de l'OM cette saison, il faut quand même le rappeler. Le quatrième entraîneur cette saison. Comment il peut arriver en se disant, bah, finalement, ce coach qu'on a pris dans l'urgence, qui est le quatrième, bah, on va construire avec lui.
Pour moi, c'est exactement le contraire. Ton argument, pour moi, est un contre-argument. Parce que, justement, il vient de se passer une saison où il a changé de coach plusieurs fois. Ça s'est très mal passé. Finalement, il trouve un pompier qui arrête le bordel.
Il rêve pas de Gasset pour devenir entraîneur.
C'est une question de stabilité aussi. On critique tout le temps l'OM parce qu'il n'y a pas de stabilité. Là, il pourrait y avoir un peu de stabilité. T'as ton pompier qui fait du bon taf.
Je vais t'en parler de la stabilité.
Voilà.
Marc,
imaginons, là, il a mis 4 buts par match, moyenne, c'est fantastique, c'est formidable. Imaginons, et c'est quand même du domaine du possible, qu'il perde 2 matchs d'affilée.
Non mais Marc, c'est ce qu'on a dit en préambule, c'est qu'il sera forcément dépendant des résultats. Après 15 jours, c'est difficile de juger. Mais là, on part du principe où il continue comme ça.
Il réussit, il continue comme ça.
Et dans ce cas, bien sûr qu'il reste.
C'est ça le postulat de base, on est bien d'accord. Parce que forcément,
Je le considère comme un grand entraîneur et je lui souhaite que ça marche. Mais imaginons, 2 matchs de perdu.
Déjà, il est français, donc c'est déjà une grande qualité.
Imagine qu'il qualifie l'Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions. Imagine qu'il aille dans le dernier carré de la Ligue Europa.
pas.
T'as et là, beaucoup tu d'imagination.
Mais non, ils sont à 5 points la Ligue des Champions.
Ouais. Ils sont à 5 points. Christophe, j'aime bien. Tu retrouves ton sens, Christophe.
Ils vont affronter lors des derniers matchs, des 10 derniers matchs, ils vont affronter 4 des équipes qui sont devant l'OM.
Bravo, Christophe, t'as bien étudié, bravo.
Donc,
il en perd la moitié.
Ah bah oui.
Oui, mais le coup, il est pas parti pour les perdre. Il est pas parti pour les perdre.
À la trapinette, comme tout le monde.
Est-ce qu'il peut avoir un avenir avec des performances comme celle-là? C'est ça la
meilleure. Moi, je vais même plus loin parce que je comprends. S'il n'arrive pas à ses objectifs, on ne fait pas le débat. Il n'y en a pas de débat. Ouais, ce que je veux dire, c'est que le postulat de base.
Mais c'est des débats de cartes anciennes qu'on fait. C'est en fonction des résultats que ça va se passer.
C'est là où tu te trompes.
On s'y transforme tous en Madame Irma avec toi le dimanche matin.
Non.
C'est là où tu te trompes, Christophe. C'est que selon moi, mais ce n'est que mon avis, on est tous d'accord pour dire que quand il signe son contrat, c'est pour 4 mois. Je pense qu'on est tous d'accord
autour de la table.
On ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est pour 4 mois. Mais Marseille ne veut pas garder Gasset pendant 2-3 ans, parce que si tu reconstruis, mais normalement, c'est pour 2-3 ans.
Qui te dit 2-3 ans, Jean-Christophe? Qui te dit 2-3 ans à Marseille? C'est impossible 2-3 ans à Marseille.
Non, mais surtout que là, donc, si Gasset
réussit cette mission.
Il a une année supplémentaire.
Mais bien, ben voilà. Il a une année supplémentaire. Il a le groupe qui est derrière lui. Il y a tous les joueurs qui sont derrière lui qui sont.
Mais la moitié,
il
va le partir.
L'autre sera là encore.
Bah, s'ils sont en Ligue des Champions, ils voudront peut-être pas repartir. S'ils vont en finale de la Ligue Europa, ils voudront peut-être pas repartir. Attendons de voir comment les choses vont évoluer. Là, il est nommé depuis 3 semaines et tout de suite, on se pose la question.
Attendons bravo, Christophe, de voir. Bravo, Christophe.
Mais effectivement, si tout se passe bien comme ça se passe actuellement, je pense que Longoria sera tenté de lui filer un contrat d'un an, voire 2 ans, et on verra si les joueurs veulent rester avec lui.
Il refusera, effectivement.
Mais il est dans une situation, il est confort.
Bien sûr.
Il n'a pas la pression, il a signé pour 100 jours. Si ça marche, c'est tout bonus. Si ça perd, eh ben, salut les gars, je remets ma casquette et je repars à Montpellier. Effectivement, s'il signe un contrat avec l'OM en disant attention, notre objectif cette saison sera d'être le dauphin du PSG.
C'est pas la même
Non, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que ça, à 70 balais, t'as encore envie de faire ça? Est-ce que t'as la moelle pour le faire? C'est pas gagné.
C'est un questionnement. Et là, je rejoins Marc. Effectivement, c'est à lui de décider s'il a envie de continuer. Voilà. Mais on parle de potentiel avenir. Moi, je pense qu'il a un potentiel avenir. Après, ce sera à lui de le décider. Mais s'il continue sur ces performances-là, l'avenir pour moi, Longoria.
Ce que vous ne voulez pas entendre, c'est que Jean-Louis Gasset, même si on adore tous hein, autour de la table le personnage et les qualités d'entraîneur, ce n'est pas l'ADN de l'OM. J'imagine mal un président comme Longoria.
Mais quoi, c'est démarqué.
Jean-Christophe, il faut.
Mais c'est quoi l'ADN de l'OM à part Goethals quels ont été les grands entraîneurs? Cite-moi de 4-5 là, des grands entraîneurs de l'OM.
C'est André Villas-Boas.
Des entraîneurs qui gagnent en plus de Goethals. Tu peux mettre Deschamps quand même.
Deschamps.
Donc dans votre analyse, ne faites pas l'économie de la situation de Longoria. Parce que si ça marche, Gasset, si ça continue à marcher, mais Longoria, il est prisonnier, là. Il a la pression. C'est peut-être lui qui va dégager si jamais il dit non, mais faut pas garder Gasset.
Bon, là, il faut que vous mettiez beaucoup d'importance là-bas, et s'il l'aime bien, effectivement, ça peut être compliqué.
Ouais. Si. Ils aiment bien les entraîneurs qui les font gagner.
Voilà, exactement.
Ben voilà, donc, en fait, ça sera bien sûr du ressort de Gasset, mais s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison qu'il continue pas comme ça. Le match charnière, vous savez quel est? C'est celui d'aujourd'hui contre Nantes. Voilà, c'est le 5e match. Si vraiment il gagne le 5e match, vous verrez que l'OM va être pas loin de la 3e place. Parce que comme l'a très justement rappelé Christophe, ils reçoivent tous les concurrents pratiquement. Donc Marseille va être tout d'un coup en position de force. On voit pas comment il pourrait faire autrement que de garder Gasset s'il les remet à ce niveau-là.
L'adhésion des joueurs. Jordan Veretout en a parlé cette semaine en conférence de presse. Il a parlé de son coach Gasset.
Oui, le coach a eu des mots simples mais efficaces. Il a ramené ce petit truc qui manquait. Il a de l'expérience, il connaît super bien le championnat. Il a de l'expérience aussi en Coupe d'Europe. Nous, on essaye de suivre les consignes à la lettre. Je pense que ce soir, tous les gars ont fait le job, que ce soit les défenseurs ou les attaquants. On leur a rien laissé, clairement. Même quand il y a des petites erreurs, il y a toujours un coéquipier pour corriger. Donc voilà, c'est bien, faut continuer comme ça.
Le discours de Jean-Louis Gasset qui a en tout cas rassuré sur son vestiaire. Jean-Pierre, supporter de l'OM, nous appelle au 32-16. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Jean-Pierre, accent marseillais visiblement, Jean-Pierre, supporter
ouais,
de l'OM.
Ouais, support de bouc, à côté de Marseille.
Parfait.
J'écoute vos commentaires et il y a une chose sur laquelle, bon, vous savez analyser le football, le match de football, il n'y a aucun souci. Par contre, de l'ensemble des journalistes que j'entends, Je me demande si vous connaissez l'OM de façon intrinsèque, de l'intérieur. L'OM, c'est un club s'il y a une mentalité avant tout. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon. J'ai même des amis par rapport à l'étranger. Marseille, c'est un club où, entre l'entraîneur, les joueurs, les supporters et la ville, ça fait qu'un. C'est un club de mentalité. Et l'avantage qu'a Jean-Louis Gasset, déjà, c'est que c'est un entraîneur français, connaît très bien le championnat. Donc, en communication, pour parler à ses joueurs, c'est quand même beaucoup plus avantageux que de parler une langue étrangère. Et ensuite, Jean-Louis Gasset, c'est un homme de mentalité qui colle complètement à l'OM.
On disait pareil de Gattuso, Jean-Pierre.
Ce qu'il a fait en parlant aux joueurs, d'autres ne l'auraient pas fait. Et il peut rester des... Pour moi, il faudrait le garder sur une période de 4-5 ans à l'OM. C'est un bâtisseur, Jean-Louis Gasset. La plupart des joueurs, ils ont tous des qualités. Mais quand vous rentrez dans un vélodrome, si à un moment donné, ça commence à pas aller dans la tête, ça ira pas dans le jeu. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a fait d'abord un nettoyage dans la tête, dans le cerveau, et ils ont donné 4 matchs, 4 victoires, simplement parce qu'il a nettoyé tous les problèmes psychologiques. Un joueur de foot, ça a des problèmes. C'est
Jean-Pierre, grave, c'est moi j'entends ce que tu nous dis, mais quand même, je veux dire, Gattuso, bah, tous les supporters marseillais étaient contents en disant c'est l'homme qu'il nous faut. Jean-Louis Gasset, c'est l'homme qu'il nous faut. Mais jusqu'à
c'est toujours
quand,
l'homme qu'il nous faut. Hein,
mais jusqu'à quand en plus, on l'a dit, tout le monde adore Jean-Louis Gasset. C'est juste que, est-ce que Jean-Louis Gasset peut s'inscrire dans la durée à l'OM?
Absolument. Parce qu'il a la mentalité. Moi, je vous dis ça, j'ai eu la chance de le croiser. Sur un concours de boules dans un petit village dans l'Aveyron, j'ai croisé ce
monsieur. On est rassuré.
Très sympathique, très abordable. Et quand vous l'entendez parler sur une partie de pétanque, il vous parle comme pour un match de football. C'est quelqu'un qui vous met en confiance.
Bon bah merci beaucoup Jean-Pierre pour ce retour d'expérience.
Très bien à l'OM.
Le personnage, les supporters marseillais.
Bah oui,
pour.
Bien sûr.
Pascal,
bien sûr.
Dernière
bien
question bon. Pour toi. Toi qui t'es déjà retrouvé dans cette situation, à être contacté en février, en mars, pour redresser la barre d'un club. Est-ce que dans ces cas-là, quand t'approches la fin de saison, quand on commence à réussir sa mission, est-ce que si on dit qu'on va rester un peu plus longtemps, il y a un changement d'attitude des joueurs? Est-ce que ça peut perturber un groupe?
Non, mais les changements d'attitude des joueurs, c'est principalement les résultats.
Oui.
Donc
okay.
Aujourd'hui, Gasset, c'est exceptionnel. Et si d'aventure, je ne le souhaite pas encore une fois, parce que le football français a besoin d'un Olympique de Marseille qui marche. Donc je souhaite que l'Olympique de Marseille version Gasset continue à gagner des matchs, à terrasser les équipes qu'elle rencontre. Mais non, c'est pas les joueurs, en fait, c'est il n'y a pas plus versatile pour un entraîneur que les joueurs. Les joueurs, vous en avez besoin quand vous êtes entraîneur. Et à ce titre-là, Jean-Louis Gasset et son expérience sait qu'il en a besoin. Donc il leur a parlé, bien entendu. Il a rectifié des choses aussi, hein, tactiquement. Faut pas non plus résoudre les pompiers de service qu'à des beaux parleurs. Il a aussi rectifié des choses dans le jeu. Il est revenu à des choses plus simples. Et comme le dit le supporter marseillais qui parlait tout à l'heure, Jean-Pierre, je crois.
Oui, c'est Jean-Pierre.
Oui, je pense que ce personnage-là, il colle parfaitement à l'environnement et au microcosme marseillais.
Ok, bon bah c'est parfait les copains. Marseille-Nantes, c'est ce soir 20h45 pour le cinquième match de Jean-Louis Gasset. Décidément, c'est une émission là de prénoms composés. On parle de Jean-Louis Gasset, c'est orchestré par Jean-Christophe Drouet, votre bien-aimé. Et puis il y avait Jean-Pierre en tant qu'auditeur. Que des prénoms vraiment top qualité. Hein. Vraiment, on est sur du 2024 magnifique. Hein.
Ok Jean-Claude.
Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous et d'avoir composé le 32-16. Allez, comme je vous envie d'avoir un prénom simple, hein, et pas composé les copains. On se retrouve dans quelques instant pour le guet-apens. Oui, le débat caché. Oh, vous ne savez rien. Et pourtant, c'est la castagne. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h29 de retour dans les grandes gueules du sport avec une équipe magistrale ce matin. Marc Madiot, Pascal Duprat, Fred Weiss, Christophe Cessieux, les grandes gueules du sport. C'est votre émission jusqu'à midi. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. Le bonbon nostalgique de Christophe Cessieux. C'était mieux avant. Spécial Jeux Olympiques. Nous allons parler d'Emile Zatopek, la locomotive tchèque. Ça, ce sera dans 10 minutes. Mais tout de suite, 11h29, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Il faut réagir sur la sensation, votre feeling du moment, sur un débat où vous ne savez rien, les copains. C'est l'objectif, réagir à chaud. Mais le débat caché, c'est ça aujourd'hui.
the undefeated, undisputed, heavyweight champion of the world.
Mike Tyson. Pourquoi je vous parle de Mike Tyson ? Sachez qu'après le match d'exhibition entre Nadal et Alcaraz dimanche dernier, Netflix continue la chasse aux événements sportifs improbables. Cette semaine, nous avons appris que la légende de la boxe, Mike Tyson, allait remonter sur le ring pour affronter un célèbre YouTuber. Il s'appelle Jack Paul. Ce sera le 20 juillet prochain aux États-Unis, 3 ans après son dernier combat. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était un match d'exhibition, un brin pathétique. Ça faisait 15 ans qu'il sortait de sa retraite, qui s'était terminée par un match nul. Le 20 juillet prochain, pour ce nouveau combat, Mike Tyson aura alors 58 ans. Le débat.
Jeune homme, quoi.
Est-ce du... Oui, jeune homme, Christophe, exactement. Est-ce du sport ? Oui ou non ?
Ah.
Je vous laisse 2 secondes de réflexion. Est-ce du sport, selon vous ? Fred Weiss ?
Non.
Pascal Duprat ?
Ah oui, oui.
Marc Madiot ?
Non.
Christophe Cessieux ?
C'est difficile à dire. C'est pas du sport, mais se mettre sur un ring face à Tyson,
c'est du sport quand même.
Pourquoi non, Fred Weiss ?
Parce que ça ressemble plus à rien, ça devient n'importe quoi. Mike Tyson, il a touché un petit peu à tout. On a l'impression qu'il a toujours envie de se mettre en avant. Alors effectivement, je me mettrai pas sur un ring avec lui, évidemment.
Il a besoin de sous, surtout.
Il a besoin de sous, oui, bien sûr. Et on a l'impression que c'est un peu... Ça tournait des stades pour essayer de récupérer un peu d'argent. Je trouve ça un peu plus pathétique, plus triste que du sport. Jack Paul, je crois qu'il fait des combats. C'est quelqu'un qui est quand même plutôt costaud et
alors il a une carrière de boxeur. Hein. Voilà, c'est pas juste un YouTuber. Il a 10 combats. Il a 9 victoires et 1 défaite. Et
voilà. Donc c'est un
27 ans.
Un vrai sportif dans la fleur de l'âge à 27 ans. Mais je vois pas tellement l'intérêt. Je vois pas ce que ça peut nous apporter. Je vois pas ce que ça peut apporter à la carrière de Tyson. Et pour moi, c'est plus une déchéance que du sport.
Plus une déchéance que du sport. Pascal Duprat.
Non, moi je le vois pas comme ça en fait. Donc ça voudrait dire, si j'écoute Fred, hein, parce que j'ai pas entendu les autres argumentations, que sous prétexte que t'as 58 ans, tu peux pas faire de sport, quoi. Et que sous prétexte que tu es un ancien champion, il faut plus que tu montres un visage un peu plus terni. Alors ça voudrait dire pourquoi on encense les vieux tennisman qui s'exhibent lors des tournois, pourquoi il y a des golfeurs âgés qui continuent à jouer, pourquoi l'équipe de France 98
sur le golf, pourquoi, c'est quand même un peu moins contraignant que la boxe.
Pourquoi le France, oui, je l'entends, pourquoi France 98 continue à faire des matchs par exemple. Donc bon, ils ont le droit,
ils ont le droit.
C'est du sport parce qu'à 58 ans, monter sur un ring, même Tyson, hein, parce que il y a le type, l'inconscient qui monte contre Tyson, là, mais il y a Tyson qui monte quand même. À 58 ans, il met les gants.
Tu t'as comparé des sports où il n'y a pas de danger extrême. Alors oui, par rapport au cœur, etc.
Ça le regarde, le danger
extrême. Là, concrètement, t'es pas performant, il y a quand même un risque pour ta santé à vie.
Mais ça le regarde.
Oui, mais c'est
demain, tu as 58 ans, tu vas faire deux.
Moi, je trouve ça hyper triste, grave. C'est une icône, Mike Tyson. Je vois pas pourquoi il va se salir à faire ce genre de match d'exhibition qu'il n'a pas.
Non, mais que ça soit comment dire pour lui, que ça soit en fait que son image en pâtisse, on s'en fout. C'est pas ça la question.
Ah ben, c'est important.
Nous demander si c'est du sport. Si c'est du sport, voilà ce que Jean-Christophe, prénom composé, a posé comme question. Est-ce que c'est du sport ? Bah oui, c'est du sport.
C'est plus du sport.
Il répond à la question à chaque fois, Pascal Duprat. Marc Madiot.
Alors, pour moi, c'est pas vraiment du sport, mais s'il a envie de le faire, qu'il le fasse. Et si on lui donne un gros chèque pour le faire, il a encore plus raison de le faire.
Je sais pas si vous avez vu des images sur les réseaux sociaux où Mike Tyson.
Tirez-toi.
Bravo, Marc. Bah
oui.
Tu montrais là sur le ring
de J'y vais pas.
Alors, allez voir ça sur les réseaux sociaux, même sur
on a mis la vidéo. Un autre truc.
On a mis la vidéo de son entraînement, mais c'était incroyable. C'est-à-dire qu'il avait un sparring partner qui était équipé de la tête aux pieds, et il met des pêches, mais dans tous les sens. C'est un démolisseur. Non, mais c'est incroyable à voir.
Tyson, c'est un mythe. Moi, si j'avais la chance de pouvoir aller voir au bord d'un ring, même aujourd'hui, j'irais.
Ah, la tirer, par exemple.
Bien sûr. Mais, parce que c'est un mythe.
Ça se passe aux États-Unis.
Mais oui, c'est ça, ce que dit, Marc. C'est un mythe, ce gars-là, pour les gens de notre génération. De notre génération, c'était le boxeur ultime. Tu vois, comme celle de la génération d'avant, c'était Mohamed Ali. Mais Tyson, moi, je me levais la nuit pour aller voir ses combats, où je rentrais de boîte de nuit un peu plus tôt, et on se mettait devant la télé avec des copains.
On veut pas tout savoir.
Pour voir ses combats le dimanche matin. Et encore aujourd'hui, il a ce côté, il sent le souffle, Tyson, parce que non seulement c'était une bête fauve sur un ring, quand il arrivait avec son short noir, tout en noir, avec cette gueule de tueur et ses adversaires qui tenaient 15 secondes, bah aujourd'hui, c'est encore excitant de le voir, même à 58 ans, même si c'est presque un papy qui continue à déménager. Et moi, j'ai envie qu'il démolisse ce youtubeur, paf, en 5 secondes, comme il a fait avec les autres.
Sur le ring, ça rappelle Bietri Boutier qui commande ses matchs et Boutier qui prend les coups à travers les paroles.
Ça y est, s'enflamme, mais ça y est, j'ai bien fait de dire c'est du sport, alors.
Vous parlez de nostalgie, ça n'a rien à voir.
Oui, c'est de la nostalgie, mais j'ai envie de te dire, moi, Tyson, même s'il ne monte pas sur le ring, j'aurais envie de le croiser.
Ah mais oui, mais moi aussi.
Tu sais qu'il est venu dans le Super Moscato Show.
Et tu l'as vu,
Vincent, il avait des larmes aux yeux quand il l'a vu. Il est venu dans son émission. C'est génial. Moi, je l'ai croisé.
C'est un mythe planétaire. Pour revenir au sujet, le type qui est en face, c'est quand même un boxeur aussi. Hein.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Donc c'est du sport. Ouais, quoi. C'est un vieux boxeur contre un boxeur moyen.
Voici ce qu'a dit.
Ses dents.
Voici ce qu'a dit Jack Paul. Justement, pour ce combat, il a dit c'est le plus grand poids lourd de tous les temps, le plus vicieux des artistes du chaos, mais je suis plus jeune, plus rapide, et je vais travailler dur pour devenir plus fort. Voici.
Jack Paul, c'est un prénom composé, c'est pour ça qu'il est aussi en
Mac. C'est très beau d'ailleurs.
J'ai une petite question.
Jack Paul, ou Jack Paul, enfin vous l'appelez comme vous voulez.
L'accent est magnifique. Le montant des bourses respectives.
Ah, alors j'ai pas l'information, je vais vérifier. Je vais te dire. Non mais oui, t'es un homme d'argent, j'ai bien compris.
Si vous pouvez lui enfiler un peu pour qu'il garde Eddie Martinez, ça m'arrangerait.
Là, il fallait suivre le on s'en fout pas de 10h45. Mike Tyson, lui, a déclaré, je suis très impatient de monter sur le ring. Il a beaucoup évolué en tant que boxeur, il parle de son adversaire au fil des années. Ce sera très amusant, je sais pas si c'est le terme, hein, mais il dit ce sera très amusant de voir ce que la volonté et l'ambition d'un gamin peut faire face à l'expérience et à l'attitude d'un GOAT. Voici ce qu'a déclaré Mike Tyson. Franchement, pour combien, parce que tu me parles d'argent, Marc, alors pour combien vous acceptez de monter sur le ring face à Mike Tyson? Vous vous entraînez, hein, évidemment, mais pour combien?
Ah, moi, je m'entraîne pas longtemps, moi.
Oui, mais t'es pas, tu te couches pas.
Non, mais tu veux dire.
Non, c'est pas le but.
De le défier.
De le défier, ouais.
Non, je me casse la gueule en montant sur le ring et je me tords la cheville.
Genre, non, mais vous êtes obligé, vous montez dans la cage et vous échangez des coups, quoi. Pourquoi?
Pas longtemps.
Je peux mentir, Jean-Christophe.
Oui, tu peux mentir.
Moi, je monte gratuitement.
Gratuitement.
Non, mais là, j'ai une petite mallette. En plus, je l'ai avec moi. En plus, j'ai 3 millions d'euros. Là, est-ce que pour 3 millions,
tu vas? Pour 3 millions, j'y vais.
Ah, oui, moi aussi.
Bah, oui, mais clairement. Parce qu'il faut au moins 3 millions pour compenser tout ce qui va mal.
Ouais, mais Fred, donc, toi, tu peux y aller. Il n'arrive pas à te toucher.
Je mise sur mon allonge, effectivement. Mais bon, ça ne va pas durer longtemps quand même.
Mais c'est une sorte, de suicide annoncé, en quelque sorte. Tu montes sur le ring aux 3 millions. Ok, mais tu signes tout de suite ton héritage pour tes enfants. Tu dis au revoir à la compagnie, je monte sur la ring. Et voilà, et tu fais venir le croque-mort à la fin du combat.
D'accord. Ah ouais.
Mais voilà. Tu crois qu'il nous tue? Non, il a jamais tué personne.
Mais attends,
il nous sonne.
On n'a pas l'habitude de prendre des coups, hein, Pascal. On n'est pas des boxeurs, on n'a pas l'habitude de prendre des coups quand même.
On n'est pas des boxeurs.
Moi, des coups, j'en ai pris.
Oui, mais pas ce genre. C'était plus métaphorique.
Pour revenir quelques instants, j'ai évidemment ouvert une parenthèse parce que tu voulais parler d'argent, mon cher Marc. Mais pour reparler de Mike Tyson, c'est vrai que c'est un mythe. Et souvent, dans la carrière d'un sportif, quand on voit, allez, on prend les derniers exemples, hein, quand on voit Roger Federer, on se dit oui, mais on n'a pas trop envie de le revoir perdre. Quand on se souvient quand même du comeback il y a 3 ans seulement de Mike Tyson, on était tous un peu excités, on a été énormément déçus. Est-ce que ça vous fait pas peur quand même que cette légende un peu, à un moment donné, soit écornée?
Moi, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à son dernier combat il y a quelques temps que je me dis que c'est plus du sport.
On va voir
que
autre
ça l'était déjà presque plus.
Mais ça l'était pas la dernière fois.
Donc je vois pas pourquoi ça serait 3 ans plus tard. Donc
c'est ce qui m'inquiète. On va pas avoir du sport, on va avoir un mythe.
Et c'est pas grave donc.
Pour moi, c'est pas trop grave. Tu sais, on va aussi à des concerts de rock'n'roll quand on va voir les Rolling Stones aujourd'hui. On y va aussi avec quelque chose qu'on
a nostalgie.
Ils envoient encore du bois.
C'est une sorte de brûlage d'idole, ça. Tu brûles ton idole, en fait, tu vois ça.
Non, je prends pas comme ça, moi, toi.
Ouais, ben, moi, si je vois se faire massacrer par Jack Paul.
Tu crois qu'il peut le massacrer, Jack Paul?
Je n'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a 3 ans, j'ai été, comme j'y sais, extrêmement déçu.
Bon, ouais. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur Mike Tyson. Merci d'avoir joué le jeu, en tout cas de ce débat caché, les copains. Ce sera le 20 juillet prochain et on suivra ça forcément.
Tu ferais un one-to-one avec Magic Johnson
Mais demain. Mais tout de suite, tout de suite. Bien sûr.
Tu m'étonnes.
Ouais. Bon, ce ne sera pas retransmis sur Netflix, à mon avis.
Non, je ne suis pas certain. Bah, si, pour Magic peut-être, mais pas pour le bleu qui sera à côté.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour C'était mieux avant, le bonbon nostalgique sur RMC, signé Christophe Cessieux, spécial Jeux Olympiques depuis janvier 2024. Évidemment, nous avançons tout doucement vers les JO, J-137 jours avant ces JO de Paris. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Midi 11h42, j'avance un peu. 11h42, de retour dans les grandes gueules du sport. La dernière ligne droite avec ce matin Pascal Duprat, Fred Weiss, Marc Madio, Christophe Cessieux. Restez bien avec nous. Votre programme continue à partir de midi sur RMC. Les paris RMC autour de Marseille-Nantes, notamment Paris Saint-Germain à Reims ou encore Pays de Galles-France. On a beaucoup de choses à vous dire et beaucoup de cotes à vous donner. Mais tout de suite, c'est l'heure de Christophe Cessieux.
Les GG.
Tatopec démarre à son tour et passe les trois hommes. Mimoun reste dans sa foulée. C'est une empoignade extraordinaire.
Jesse Owens. Il arrive au premier flash avec un temps de 10 secondes et 3 dixièmes.
Marito Zeperek qui revient à la hauteur de Prisguida. C'est les champions de l'Afrique.
C'était mieux avant.
C'était mieux avant, spécial Jeux Olympiques 1952. Émile Zatopek devient une véritable star.
Ce 19 juillet 1952, jour d'ouverture des 15e Jeux Olympiques, c'est un monde profondément divisé qui s'est donné rendez-vous à Helsinki. Située à moins de 200 km de la frontière russe, la capitale finlandaise est aux premières loges de la guerre froide que se livrent les deux blocs depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un conflit larvé qui n'empêche pourtant pas les soviétiques de faire leur toute première apparition dans les Jeux Olympiques. Après avoir longtemps considéré les Jeux comme un symbole du capitalisme honni, Staline et sa clique ont compris que la guerre froide pouvait aussi se gagner sur les terrains. Alors, ils débarquent en Finlande, bien décidés à prouver que le modèle qui gagne, c'est le modèle socialiste. Dans leur bagage, les Russes ont emmené leurs alliés, ces pays satellites, sur lesquels s'est refermé le rideau de fer, sitôt la guerre terminée. Parmi eux, la Tchécoslovaquie, petit pays d'à peine 15 millions d'habitants, que la planète a appris à placer sur une carte en 1948 grâce à un drôle de phénomène et son nom aux trois syllabes qui claquent sur la cendrée, Zatopek, champion olympique du 10 000 à Londres.
Zatopek, avec une autorité et une volonté extraordinaire, augmente sans cesse son avance. Il double presque tous ses concurrents, sauf le français Mimoun, qui va prendre une magnifique deuxième place derrière le phénomène tchèque.
Un sacré champion que ce Zatopek, aussi rapide et endurant qu'il est moche à regarder. Avec sa tête qui ballotte de droite à gauche et ses grimaces incessantes. Un style particulier qui lui vaudra le surnom de locomotive humaine, un surnom qu'il assume avec fierté. Oui, je courais comme une locomotive, avec force et volonté, et non pas avec élégance ou talent. Mon style, bon, il n'était pas beau. J'avais toujours ce visage acharné, rempli de grimaces. C'était ma façon de courir. J'aurais préféré que les gens ne me voient pas comme ça, mais bon, c'était quand même efficace, faut bien le dire. Oui, elle est diablement efficace, cette locomotive, et transporte avec allégresse les valeurs du régime. Émile est l'enfant chéri de la démocratie populaire, dont il va délivrer la bonne parole chaque semaine aux ouvriers et aux paysans. Et si Zatopek est officiellement officier dans l'armée, il est plus un militaire honoris causa qu'autre chose. Une sorte d'amateur marron qui bénéficie de tous les avantages du régime et trouve l'amour dans les bras de Dana, lanceuse de javelot de son état et fille de colonel, un couple vedette sur lequel reposent tous les espoirs du Parti communiste tchèque à l'entame de ces Jeux d'Helsinki. Mes camarades, les Jeux Olympiques sont le sommet d'une carrière athlétique. Et comme votre entraîneur en chef, je suis très fier de vous et je serai toujours à vos côtés. Mais sachez que la seule force réside dans le collectivisme. L'individualisme ne signifie rien. Gloire au sport et à la paix. et à la moisson de médailles débute le 20 juillet par le 10 000 mètres que Zatopek va dominer de la tête et des pointes, battant une fois encore son rival de toujours, le français Alain Mimoun.
Zatopek se détache au 8e kilomètre malgré les efforts de Mimoun et déjà vainqueur, pour l'honneur et pour le public, trouve la force de sprinter. Dans une foulée étonnante, doublant pour la troisième fois certains concurrents, il remporte une victoire magnifique en 29 minutes 17 secondes devant Mimoun.
Une bataille de titans. Hein. Il a lâché tout le monde sauf moi. Il gagne. Bon, j'ai fini deuxième. Et trois jours après, c'était le 5000 mètres. Le 5000 du siècle.
Le 5000, seule distance sur laquelle Zatopek ne possède pas encore le record du monde. La concurrence est féroce, tout comme la bagarre qui va faire de cette course l'épreuve reine des Jeux d'Helsinki.
La cloche annonce le dernier tour. Mimoun démarre et passe Zatopek. Mais Zatopek démarre à son tour et passe les trois hommes. Mimoun reste dans sa foulée. C'est une empoignade extraordinaire. Chataouet tombe. Et en 14 minutes 6 secondes 6 dixièmes, Zatopek remporte une nouvelle et splendide victoire devant Mimoun à 8 dixièmes de seconde seulement.
Et le succès des 1000 va se transformer en triomphe des Zatopek. Quelques minutes plus tard, lorsque Dana se présente dans la zone de lancer javelot en main, la jeune épouse va prendre exemple sur son champion de mari.
À Helsinki,
après la cérémonie des médailles du 5000 mètres, je faisais un tour d'honneur et elle est venue me voir avant de commencer sa compétition au javelot. Elle m'a dit « Oh, Emile, c'est fantastique, tu as gagné, mais fais-moi voir ta médaille d'or, je vais la toucher pour qu'elle me porte bonheur. » Et immédiatement après, pour son premier lancer, elle a battu le record olympique et a remporté la compétition. Les amoureux vont célébrer leur médaille chacun à leur manière, pendant que Dana part faire la fête, guitare en main. Emile, lui, va se coucher. Il y a encore une course à gagner, le marathon, et c'est 42 kilomètres qu'il n'a encore jamais couru. Mais rien, décidément, ne peut entraver la marche de la loco. Le 27 juillet, Zatopek, devant une foule en délire, décroche un troisième titre olympique.
Dans le stade, la foule attend dans le silence l'homme qui va paraître sous la voûte. Et Zatopek paraît. La foule hurle. Zatopek fait son dernier tour sans hâte et sans fatigue. Et après ses victoires des 5000 et 10 000 mètres, Zatopek battant le record olympique avec 2h23 minutes, ajoute à son palmarès une troisième victoire.
Le triomphe est total pour les deux tourtereaux qui rentrent à Prague où ils sont fêtés comme des dieux grecs. Et le régime de se délecter de ce succès, s'il a pu porter si haut le nom de sa patrie, clame la propagande, c'est uniquement parce qu'il l'aime si profondément, parce que son cœur, son esprit, chaque parcelle de son être est imprégné du plus pur patriotisme socialiste. Les portraits d'Émile fleurissent aux quatre coins du pays, un boulevard est même baptisé de son nom. Et il prend du galon, devenant commandant de l'armée populaire tchécoslovaque. Pendant quelques années encore, Émile va continuer à régner sur les courses de fond, établissant 18 records du monde, dont celui du 5000 mètres, qu'il décroche enfin à Colombes en 54.
Zatopek passe rapidement en tête et entame une course solitaire dans son style si personnel où s'allie la souplesse des jambes, la puissance du torse et le rictus de la volonté farouche. Au 1000, 2000, 3000 et 4000 mètres, Zatopek est très au-dessous des temps mondiaux de Gunderag. Puis il se met à doubler tous ses concurrents et réussit un dernier kilomètre fantastique en 2 minutes 43 secondes. Le record du monde du 5000 mètres est battu, Emil Zatopek conquiert un nouveau record avec une facilité déconcertante.
Mais le champion vieillit et ne gagne plus aussi souvent. En 56 à Melbourne, il ne s'aligne que sur le marathon où pour la première fois, il est battu par son vieux copain Mimoun. L'année suivante, après avoir été nommé colonel, le camarade Zatopek prend sa retraite sportive et s'en va couler des jours heureux au ministère de la Défense nationale. L'histoire d'Emile aurait pu s'arrêter là, oui. Mais 10 ans plus tard, en 1968, elle va rebondir de manière abrupte après que les chars du pacte de Varsovie soient entrés dans les rues de la capitale pour mater le printemps de Prague.
Attention les tanks à droite.
Et pour nous tous, c'était pire que l'occupation allemande. C'était quelque chose de terrible parce que c'était un amour jeune qui était tué, un amour pour la liberté.
Et cette fois-ci, Émile le docile, Émile le modèle, entre en rébellion, se mue en patriote farouche et descend dans la rue pour faire face aux chars. Il prend même la parole pour dénoncer l'attitude soviétique. Le 26 août 1968, s'est vêtu de son uniforme de colonel qu'il répond en français aux questions du journal télévisé.
«
Elles sont contre notre démocratie, contre l'humanité, contre tout le progrès. Toutes les nations désirent la même liberté. C'est aussi triste situation que sont démontrées les armes russes.
Des propos jugés anti-soviétiques que Zatopek renouvellera quelques temps plus tard à Mexico lors des Jeux de 68, où des diplomates suédois vont lui proposer l'asile politique. Mais Zato refuse. La Tchécoslovaquie, il l'a chevillé au corps. Alors, il rentre derrière le rideau de fer et sa vie devient un enfer. En avril 69, le monde apprend que rien ne va plus pour la locomotive.
Il y a eu une mesure répressive qui va beaucoup frapper les esprits, aussi bien dans le pays qu'à l'étranger. Le colonel Zatopek est suspendu de ses fonctions pour avoir diffusé de fausses informations et pour sa conduite contraire aux ordres du ministère de la Défense.
Et ce n'est pas tout. Le colonel Zatopek est exclu du parti, interdit de séjour à Prague et expédié à l'autre bout du pays dans une mine d'uranium où il va passer 6 longues années dans les poussières radioactives. Son calvaire se poursuivra ensuite dans les faubourgs de Prague où le héros déchu sans le sou est contraint d'exercer le métier d'éboueur puis de terrassier. En 1975, enfin, le régime tchèque, en échange d'une autocritique en bonne et due forme, accepte de l'absoudre et de lui octroyer généreusement un emploi d'archiviste dans les sous-sols du ministère des Sports. Rabaissé et humilié par les siens sur ses terres, Émile trouvera le réconfort à l'étranger, où durant les dernières années de sa vie, il sera reçu partout avec les honneurs et les sourires. En 1979, il a même le plaisir de retrouver à Paris son vieux copain, Alain Mimoun, interrogé par Daniel Potra.
Oh oui, toujours, c'est un grand plaisir pour nous.
Vous avez l'habitude de vous embrasser, hein?
Okay. mais plutôt après la course, avant la course, la nervosité, nous étions toujours un peu séparés.
Lequel des deux était le meilleur?
Je considère mon ami Émile Zatopek comme le plus grand champion de tous les temps, n'est-ce pas? Alors pour moi, c'est un honneur d'avoir été son adversaire.
Mimoun, Zatopek, deux champions magnifiques qui chacun à leur manière auront marqué l'histoire de l'athlétisme. Mais au-delà de la légende du sport, Zatopek aura aussi écrit quelques pages du grand et tragique roman du XXe siècle dont il fut tour à tour un témoin privilégié, un exemple à suivre, puis un héros rebelle et déchu.
Émile Zatopek, raconté par Christophe Cessieux, un C'était mieux avant encore extraordinaire, parce qu'on connaît tous ce champion Émile Zatopek, mais on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants parfois de sa carrière. Est-ce que vous savez pourquoi on connaît parfaitement Émile Zatopek? En tout cas, pourquoi ce sportif-là a dépassé le cadre du sport? Est-ce que vous savez? Non, pas du tout. Vous n'avez pas la réponse. Parce que, en fait, je suis un peu vieux et je joue beaucoup au mot croisé. Parce que j'adore ça.
Et en fait... Ah oui, parce que passer son nom, ah ouais. Ça rapporte des points, le Z et le K à la
non,
fin.
Non, c'est au Scrabble. Mais au mot croisé, il y a beaucoup loco tchèque, locomotive tchèque. Et en fait, à chaque fois, c'est Zatopek.
D'accord.
Et pour entrer un petit peu dans les mots croisés, on va dire français, ça veut dire quelque chose pour un sportif qui, c'était dans les années 50, 60, qui a quand même un petit peu disparu. Mais non, pas pour les mots croisés. Il est toujours, en tout cas, en quelque sorte, célébré. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce reportage?
Effectivement, Fred. On connaît, c'est tous, mon papa, c'était un de ces héros, ce monsieur, donc ça me fait bizarre d'entendre ça. Et effectivement, on connaît la carrière sportive et tout ce que tu as raconté après. Enfin, c'est incroyable, c'est un héros, ce monsieur était un héros. Et franchement, ça file les frissons parce que tu te dis, ok, tu as une influence sur le sport et c'est vraiment bien déjà. Parce qu'avec Alain Mimoun, leur rivalité était incroyable. Mais ce qui s'est passé après, ses convictions, le fait qu'il se batte pour ses convictions, qu'il soit prêt à tout pour ça, moi je trouve ça très impressionnant.
Marc, toi qui aimes l'histoire du sport, qu'est-ce que tu as envie de retenir là?
Ah bah là, c'est une leçon, hein. Il y a de la tenue. Il y a de la tenue.
C'était mieux avant, c'est ça?
ton émission, le titre de cette partie, pas très bien. C'était mieux avant. Et là, c'est la vérité. C'est quand même des grands, grands personnages. Il n'y a rien à rajouter.
Pascal Duprat.
Ben, moi, pendant que je me régalais des commentaires de Christophe, ben, j'ai un peu tapoté et je me suis rendu compte que c'était le premier homme à descendre sur le 10 000 en dessous de 29 minutes. Donc il avait le record du monde du 10 000 en 28,54. Donc j'ai poussé un peu plus loin la comparaison. Et puis je m'aperçois qu'aujourd'hui, le record du monde, c'est 26-11 sur 10 000. Mais c'est pas beaucoup, en fait, si on regarde bien.
3 minutes deux, en 40, 50 minutes. Ans
ouais, ouais, 50 ans.
Ouais, c'est ouais, ouais, mais les pistes ont
donc
changé.
C'était vraiment, c'est simplement pour situer les exploits de ces athlètes-là. Mmh.
Non, mais ça,
qui avec
quand
le temps sont dilués, mais c'était des sacrés athlètes.
T'imagines le triplé quand même aux Jeux Olympiques.
Ah 5 000, oui, c'est 10 000 marathons.
Qui n'avait jamais couru quand même. Hein.
Non, voilà,
ouais. Il fait quoi? Il fait 2,23, c'est ça?
J'ai pas
c'est 2,22 ou 2,23.
Il y en a d'autres qui ont réussi la même chose. Qui ont réussi à être champion olympique du marathon.
La dernière chose que je voudrais rajouter, c'est que tu pourrais concurrencer Ondelat, Christophe, parce que tu prends bien
les accents.
Comment dire, les accents.
Oui. Ouais,
vraiment, c'est bien. Hein. Voilà. Et tu fais bien la femme aussi.
Alors, je suis très embêté parce que là, j'en ai préparé un sur Nadia Comaneci, mais je sais pas comment je vais faire pour faire sa voix. Parce qu'elle avait quand même une voix d'adolescente prépubère, donc ça va être difficile quand même.
Vas-y, un test comme ça. Tu fais
oh, je m'appelle Nadia, j'ai ton dernier, Montréal.
Ça n'a rien à voir, ça c'est Mickey, ça.
Donc, je sais pas, je vais demander à une jeune journaliste de m'aider sur ce coup-là, je pense.
Merci Christophe, bravo. Tous les C'était mieux avant sont à retrouver en podcast. Merci mes chers GG pour ce matin. Encore un très bon moment avec vous. Marc Madiot, Pascal Duprat, Fred Weiss. Merci. Et Christophe Session, on se retrouvera samedi prochain à partir de 9h30 pour des grandes gueules du sport en direct de Lyon. Vous voulez y participer, public@rmc.fr. Je vous souhaite une belle journée. Oh, on va pas se quitter longtemps. On se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC autour de la Ligue 1 avec Marseille-Nantes, avec Reims-PSG, PSG-Reims, mais également le tournoi Destination et ce Pays de Galles-France. Allez, à tout de suite. Votre programme continue sur RMC.